Voilà, je vais conclure donc la journée par une intervention un petit peu, un pas sur C.I. Lewis, sur autre chose, et Machine de Wittgenstein. Alors, je vais parler en français, mais j'ai demandé l'autorisation. Et tout mon handout est donc en anglais. Vous avez aussi des handouts que j'ai distribués. Si vous ne les avez pas, ils sont là. Donc, je vais lire... Je vais lire le texte que, en fait, sur lequel je travaille. Tout mon truc est sur ce texte. D'accord ? The machine as symbolizing its action. The action of a machine, I might say at first, seems to be there in it from the start. What does that mean? If we know the machine, everything else, that is, its movement, seems to be already completely determined. We talk as if this part could only move in this way, as if they could not do anything else. How is this? Do we forget the possibility of their bending, breaking off, melting, and so on? Yes. In many cases, we don't think of that at all. We use a machine or the driving of a machine to symbolize a particular action of the machine. For instance, we give someone such drawing and assume that he will derive the movement of the part from it. Etc., etc. Ce passage, qui est dans les investigations philosophiques de Wittgenstein, donc le paragraphe 193, est très connu parce que l'ensemble, en fait, dans lequel il s'inscrit, est très connu. C'est le passage sur le paradoxe de la rule following. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu ce paradoxe pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait, je ne vais pas parler du tout de ce paradoxe. Je vous l'explique quand même parce que je pense qu'il y a ça derrière. Donc je vais vous l'expliquer. Il y a des multiples interprétations de ce paradoxe. Donc il y a des multiples interprétations de ce que Kripke, un autre philosophe, dit de ce paradoxe. Et je vais vous, en gros, je vais vous expliquer ce que Kripke, enfin, mon interprétation de ce que Kripke dit de façon très simple. L'idée, c'est qu'une règle s'applique. D'accord ? Comprendre une règle, c'est comprendre les applications de cette règle. Mais d'une certaine façon, comme il y a toujours un nombre fini d'applications de la règle, il y a toujours la possibilité, pour un nombre fini d'applications, qu'on ne sache pas quelle règle on a appliquée. Donc, je vais vous donner l'exemple que donne Kripke, c'est l'exemple de l'addition. Okay, bon, par exemple, plus 2. On croit comprendre la règle de l'addition, c'est comprendre comment appliquer dans des cas particuliers la règle. Donc c'est par exemple dire, bon ben voilà, 3 plus 2 égale 5, et puis 7 plus 2, ben, c'est égal à 9, puis etc., etc. On teste l'élève pour savoir s'il a compris la règle, mais bien entendu, il est tout à fait possible que l'élève n'applique pas la règle plus, mais la règle qus, qui se comporte exactement comme plus 2, sauf qu'à partir, par exemple, de 10 exposant 24, n qus 2, que je vais noter comme ça, c'est égal à n plus 3, de ce genre. D'accord ? Donc, il y a, d'une certaine façon, entre la règle elle-même, sa signification et ses applications, une forme d'indétermination. D'accord ? Et ça, c'est un problème énorme, parce que on n'est jamais sûr, finalement, d'appliquer la même règle. On n'est jamais sûr qu'il n'y a pas un immense malentendu entre nous qui un jour éclatera, mais pour l'instant, comme par hasard, il n'a jamais éclaté. Alors, Wittgenstein fait une analogie dans le paragraphe 193 entre le fonctionnement d'une machine et le fonctionnement d'une règle. Il est en train de développer l'idée qu'il y a une prédétermination dans la machine, des mouvements des parties de la machine, comme il y a une prédétermination dans la règle, des applications de la règle. D'accord ? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas sceptique, pour quelqu'un qui pense que la règle nous donne, d'une certaine façon, guide l'ensemble des applications, l'analogie entre la machine et la règle marchent. Les applications sont à la règle, l'usage d'un symbole sont à la signification du symbole, exactement comme les mouvements de la machine sont à la machine. D'accord ? Il y a une prédétermination dans la machine de ces mouvements. D'accord ? C'est ce qu'il dit ici. Hein. L'action de la machine semble être à l'intérieur de la machine dès le départ, from the start. Il y a une prédétermination des mouvements de la machine dans la machine, exactement comme il y a une prédétermination des applications de la règle dans la règle. Donc voilà le contexte général. Et il y a plein d'interprétations possibles de ce paradoxe, de ce que dit Wittgenstein, de ce que dit Kripke sur ce paradoxe, etc. Moi, je ne vais pas parler de ça. Moi, mon problème, c'est que je ne comprends pas quelles sont les machines dont Wittgenstein parle. D'accord ? Je veux juste identifier de quoi il parle. C'est quoi les machines ? De façon très concrète, de quoi il parle ? Quelles sont les machines dont qu'il a en vue ? Regardez, c'est pas évident en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la machine comme symbole, enfin comme symbolisant son action ? Qu'est-ce que ça veut dire que l'action de la machine soit là depuis le début ? Qu'est-ce que ça veut dire d'oublier la possibilité de the bending, breaking off, melting and so on ? De quoi on parle quand on parle de drawing of a machine ? Exactement. Qu'est-ce qui est derrière ? Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que Wittgenstein a quelque chose de très particulier à l'esprit. En fait, il réfère à ce qu'on a pu appeler l'analyse cinématique, kinematic analysis en anglais, comme elle a été développée par quelqu'un qui s'appelle Franz Rollo, qui est un scientifique et un ingénieur, qui était assez très 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 célèbre au début du XXe siècle, mais plus trop connu aujourd'hui. Alors, bon, ça je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Ma question, ce n'est pas celle de savoir quelle est la bonne interprétation des remarques de Wittgenstein sur le suivi d'une règle. Ce n'est pas non plus de savoir quelle est vraiment la bonne interprétation de PI 193. Okay. Ma question, c'est juste savoir quelle est la conception de la machine qui est sous-jacente à l'analogie que Wittgenstein fait. Alors, bon, mon plan va être le suivant. Je vais d'abord analyser deux réponses à qu'est-ce que c'est que les machines dont parle Wittgenstein. Une réponse de Kripke, qui dit que les machines dont parle Wittgenstein, c'est les ordinateurs. Et une réponse de Becker et Hacker, qui sont d'autres commentateurs, qui disent que les machines dont parle Wittgenstein, c'est des dispositifs mécaniques. Et je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas, ni l'une ni l'autre. Et qu'en en fait, on ne sait pas. Dans un deuxième temps, je vais faire un détour par la cinématique, par l'histoire de la cinématique, très rapidement, de savoir qu'est-ce qu'on entend par cinématique, d'où le mot est venu, okay, et quelle place très importante joue Rollo dans cette histoire. Dans une troisième partie, je vais vous parler du lien entre Wittgenstein et Rollo, j'irai assez vite. Simplement, Rollo était prof à la Technische Hochschule quand Wittgenstein a fait ses études d'ingénieur. Non, pas quand, mais 8 ans avant. D'accord ? Et il a été très important à la Technische Hochschule. Et en conclusion, j'essaierai de vous montrer pourquoi, finalement, c'est pas si bête de poser la question « qu'est-ce que c'est que les machines de Wittgenstein ?» D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un gain philosophique, à mon avis, à être clair là-dessus. Donc, on va commencer. Alors, je vais très vite sur Kripke, parce que ce n'est pas mon objet. Simplement, si vous voulez, 3 choses. Quand Kripke parle, quand Kripke commente le paragraphe 193, il attribue à Wittgenstein une position qu'il nomme le mécanisme. Et le mécanisme, c'est une variante du dispositionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le dispositionnalisme ? Pour Kripke, le dispositionnaliste, il dit que ce qui permet de distinguer plus de cus, c'est pas un état mental occurrent, d'accord, c'est pas un état mental de celui qui applique la règle, mais c'est une disposition, d'accord, c'est-à-dire, oh, si on demandait à la personne qui applique la règle plus, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là, ben, on aurait bien une distinction entre les deux divergents branches de ce qui était au départ la même règle. D'accord ? Et le mécanisme, c'est simplement l'idée de dire que les dispositions, les états dispositionnels mentaux peuvent être implémentés dans une machine. D'accord ? C'est comme ça qu'ils peuvent être encodés, les faits dispositionnels peuvent être encodés dans une machine. Et donc, l'idée, c'est de se dire, oui, Wittgenstein, enfin, le paradoxe de Wittgenstein révèle simplement que les agents qui appliquent des règles n'ont pas simplement des états mentaux occurrents, mais aussi des dispositions qui peuvent être encodées dans leur cerveau, si on pense que leur cerveau est une machine. Alors, Kripke dit ça, dans le texte, il dit ça, dans le texte que je vous donne, je crois que c'est le texte 2. Et pour Kripke, c'est mon deuxième point, le dispositionnalisme est faux, ne va pas, c'est pas une bonne réponse au paradoxe, parce qu'il confond le normatif et le causal. C'est-à-dire, il confond ce qui devrait être une réponse, ce qui doit être la norme, et ce qui est causé par la disposition, d'une certaine façon. Donc c'est ce qu'il dit dans le texte. Alors le texte que je vous ai donné, mince, je ne l'ai pas donné, parce que j'ai été très vite. Mais en gros, il dit que la norme est indistinguable de la performance. Mais encore une fois, je vais vite parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Simplement, cette critique qui est adressée au dispositionnalisme aussi s'applique au mécanisme. C'est-à-dire, ceux qui pensent que la machine détermine toutes ses opérations confondent ce qu'il appelle le programme de la machine, c'est-à-dire la norme, avec son implémentation matérielle. D'accord ? Ce qui relève du causal. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est véritablement le point vraiment important pour moi, et je vais juste lire ça. Wittgenstein discusses machines explicitly in the section 193-195, the criticism in the text of the dispositional analysis and of the use of machine to solve the problem are inspired by these sections. In particular, Wittgenstein himself draws the distinction between the machine as an abstract program, der Maschine als symbol. Donc, quand on avait the machine as symbol, ça veut dire le programme. And the actual physical machine, which is subject to breakdown. Tout ce qui est le rapport à la causalité, do we forget the possibility of their bending, breaking off, etc., etc. Donc, il est clair que pour Kripke, les machines de Wittgenstein, dans le paragraphe 193, sont des machines de Turing et des ordinateurs. Alors, il faut bien dire que c'est possible, parce qu'au même moment où il écrit ce texte, en fait, Wittgenstein discute avec Turing. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible. Hein, il y a des gens qui pensent que oui, c'est ça. En fait. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que c'est vrai ? Et ma réponse, c'est que non. Les machines auxquelles Wittgenstein se réfère ne sont pas des ordinateurs. C'est même pas des machines à calculer, je veux dire, mécaniques. C'est des mécanismes tout bêtes, c'est-à-dire des parties d'artefacts mécaniques ordinaires. Par exemple, Wittgenstein réfère au mécanisme de Biel-Manivelle, souvent. Donc c'est vraiment des mécanismes qui sont les mécanismes des garagistes. D'accord ? Mécanisme schéma de Biel-Manivelle. Donc c'est pas un ordinateur. Où est le programme ? Où est l'implémentation ? Peut-être qu'il y en a. Mais disons que c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que, indépendamment de savoir si Kripke a raison sur l'interprétation, c'est pas le problème. Je me tourne vers une autre interprétation, parce que je me dis, ça va pas, parce qu'il fait des machines, des ordinateurs. Alors, je me tourne vers Backer et Hacker, qui ont qui ont le mérite d'avoir fait un commentaire ligne à ligne des investigations. Donc, on trouve ce qu'on veut, on trouve toujours quelque chose chez eux. Et disons qu'eux aussi pensent que l'idée de Wittgenstein, c'est vraiment de séparer dans le pays 193 ce qui doit être le cas, ce qu'ils appellent normatif grammatical, enfin c'est pareil que Kripke, de ce qui est le cas, c'est-à-dire le causal et le factuel. Mais à la différence de Kripke, parce que je pense que Bakker et Hacker ont en tête plus les textes, ils ne réfèrent pas à des ordinateurs. Ils réfèrent à la place à des mécanismes ordinaires. Donc voici le texte clé. Il dit, lorsque nous expliquons, when you explain the machine design, for example, we sometimes say that a part of a machine must move thus and so if another part moves in such a way. A pair of cogwheels, for example, is commonly used to demonstrate blah, 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 blah. OK? And ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent, c'est que dans certains manuels de mécanique pratique, on fait cette confusion entre ce qui relève du géométrique et ce qui relève du causal, enfin de la, vraiment de, des lois mécaniques. Alors, moi, le problème que j'ai avec ce commentaire, c'est que ça me va, mais c'est très vague. C'est-à-dire, je ne sais pas qui utilise des parties de la machine pour symboliser. Je ne sais pas quels sont les traités, les manuels de mécanique pratique qui commettent cette erreur commune. Je cite, donc il n'y a aucun titre, donc je ne sais pas où aller chercher. Pour moi, c'est pas. Et puis je ne sais même pas ce qu'ils entendent par manuel de mécanique pratique. Donc voilà, il n'y a aucun élément dans Bakker Hacker pour me répondre, donc c'est un peu un problème. Et on pourrait dire, peut-être, pour les défendre, qu'en fait, ce n'est pas si grave. Peut-être que Wittgenstein, en fait, ne réfère pas à une pratique scientifique spécifique. Peut-être qu'il veut juste illustrer une conception qu'il trouve erronée de « following a rule ». OK ? C'est tout. Il trouve ça élégant de faire cette analogie. On pourrait imaginer l'idée. On pourrait très bien dire ça. Mais cette ligne de défense est contredite par des passages qui montrent que Wittgenstein a quelque chose de très spécifique à l'esprit. Alors, bon, je saute le premier paragraphe, mais c'est vraiment exactement ce qui est dit déjà dans Pays 193. Puis voilà ce qu'il dit. Comment peut-on justifier cette sorte d'idée, c'est-à-dire cette analogie entre la règle et la machine ? Ce qu'il dit, c'est que one has in mind that branch of mathematics which is called kinematics. Fuchs, the word kinematics may be used also in other senses. Donc, il a bien quelque chose de bien précis en tête, puisqu'il nous dit que ça peut être utilisé dans d'autres sens. Alors après, c'est très énigmatique. Kinematic is really a branch of geometry. OK. Bon. Laquelle ? In it, one works out how pistons will move if one moves the crankshaft in such a way and so on. Moi, je ne connais pas de branche de la géométrie où on a des pistons. Donc, c'est un peu étrange. Donc, la question, c'est qu'est-ce que la kinématique ? Et c'est là que j'en arrive un peu à mes trucs. Alors, le terme kinématique, en fait, est introduit par Ampère, de manière technique, en 1836. Alors, dans la définition de Ampère, vous avez deux choses. À cette nouvelle science qu'on va appeler la cinématique, c'est la science des mouvements, mais considérée en eux-mêmes. C'est-à-dire indépendamment de toute force qui agit sur eux. Donc dans la cinématique, vous avez la définition de l'accélération, vous avez tous les concepts, la vitesse, le temps, etc. Mais vous n'avez pas de force, d'accord ? Vous n'avez pas de dynamique. Puis il nous dit aussi, la partie bleue, oui, mais c'est aussi un truc qui est vachement important pour les machines. C'est très très important, la cinématique, c'est la science des machines, en fait. Et donc, on peut se demander, mais on perd, mais quel est le lien, en fait, entre les deux choses ? C'est assez différent, après tout. On ne voit pas bien en quoi la théorie qui traite des mouvements sans considérer les forces serait spécialement adaptée à parler des machines. Alors, pour comprendre le lien qui est fait, il faut un petit peu augmenter le contexte, enfin, il faut se reculer un peu. Ce qui se passe à l'époque, et qui est très important, c'est l'émergence, dans la théorie des machines, d'un fait qui est la domestication de l'énergie, enfin de l'énergie de la vapeur. Et cette domestication va entraîner une modification dans la définition et dans le rôle des machines. Oh, je vais très vite et je vais être très caricatural. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avant, la machine est pensée comme une sorte d'instrument qui permet d'augmenter la force musculaire d'un individu. Donc, c'est un instrument. Et elle est toujours liée à une sorte d'horizon pratique, d'une certaine façon. C'est pour ça que avant le 19e siècle, on a des traités des machines, très nombreux. Mais c'est des traités des machines qui sont téléologiquement orientés. On a des traités de machines de guerre, traités de machines agricoles. Mais on n'a pas de traité général des machines. Ça n'a pas de sens. Parce qu'une machine, c'est toujours quelque chose qui permet d'augmenter l'impact de la force humaine sur l'environnement ou sur les autres hommes. Ce qui s'est passé avec la Steam Industry, c'est que les ingénieurs ou les spécialistes des machines se sont posés d'autres problèmes. Le problème a été de contrôler la nouvelle source d'énergie extrêmement puissante qui était l'énergie de la vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler ? Ça veut dire, si vous avez un mouvement alternatif translationnel, comment créer un mouvement circulaire ? C'est exactement le problème de Watt, d'accord ? Le problème de Watt, celui qui, justement, ce qu'il essaye de faire, c'est, justement, il se pose la question de savoir comment modifier un mouvement en un autre. Comment la machine ici, ou les processus machiniques, sont considérés comme des dispositifs qui permettent de transformer un mouvement en un autre. Et qui ne sont plus liés à un type de force ou à un type d'énergie, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'Ampère peut, d'une certaine façon, faire un lien très fort entre les processus qui s'intéressent au mouvement dans leur propriété pure et la science des machines. Parce que tout simplement, une machine ou les éléments d'une machine, c'est des choses qui modifient les propriétés des mouvements. D'accord ? Et c'est pour ça qu'à partir de Monge, en fait, c'est lui qui a introduit ça, comme il a introduit beaucoup de choses, on assiste à une théorie générale des machines, où les machines sont vues comme des dispositifs qui combinent des variateurs de mouvement, ou des transformateurs de mouvement, indépendamment de leur application ou indépendamment de leur champ d'exercice. Il n'y a plus, si vous voulez, de traités de machines agricoles, de traités de machines générales. On fait une classification générale des éléments de la machine, que l'application soit agricole ou de guerre. D'accord ? Et l'idée, c'était que la science pure des mouvements pourrait nous donner la voie, pourrait être une voie, pour dégager les éléments fondamentaux qui sont les transformateurs de mouvement qu'on combine pour faire n'importe quelle machine. Donc il y a une alphabétisation de la machine, on essaye de repérer les éléments fondamentaux qui combinés forment toutes les machines possibles. Voilà. Le problème, c'est que ce beau programme naufrage, enfin, je ne sais pas comment dire, s'effondre au cours du 19e siècle. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, ce qu'on constate, c'est que ce bel espoir, qui était vraiment une belle chose, dans la tradition française de Monge, Ampère, il y en a plein d'autres, et bien finalement, il n'arrive pas à faire une classification vraiment intéressante et féconde des machines existantes. on n'arrive pas à avoir une classification générale des machines. Et donc on a une scission entre ces deux sens de cinématique, cinématique 1 et cinématique 2, et une forme d'élision du second sens, c'est-à-dire qu'au fin 19e, début 20e, cinématique veut dire qu'une partie de la mécanique générale. D'accord ? La cinématique, c'est pas la dynamique, c'est juste c'est les propriétés générales du mouvement, de la vitesse, etc. Des repères de Fresnel, par exemple, je pense que c'est cinématique, c'est pas dynamique. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la position de Rollo. Rollo, il arrive à ce moment de... Il constate déjà cette espèce de naufrage qu'a été la tradition française. Et l'idée, c'est justement de refonder à nouveau frais la science des machines. Mais plus comme transformateur de mouvement. D'accord ? Donc pour lui, l'idée que la science des machines pourrait être une sous-discipline de la mécanique, la science des mouvements purs, n'a pas donné lieu au progrès espéré, et donc Rollo pense qu'il faut tout recommencer depuis le début. Alors, juste un point, qui est Rollo, je vais très vite. Donc il est professeur à la Technische Hochschule de Berlin, de 1876 à 1896, il est très important, je veux dire, il est recteur de cette nouvelle institution, il a écrit énormément de livres, c'est quelqu'un qui a façonné à la fois la vie intellectuelle, enfin, de l'ingénieur, enfin, de l'ingénierie allemande, mais aussi qui a façonné toute une génération d'ingénieurs allemands. Et il est connu par Wittgenstein. Il est connu parce que Wittgenstein fut à la Technische Hochschule de 1906 à 1909. Okay. On sait que, il n'a pas cité Rollo explicitement, mais on sait que, par exemple, il a pris des dessins de Rollo dans ses Narlas, et puis de toute façon, il était environné par Rollo. Je veux dire, Rollo a tellement façonné l'apprentissage qu'il était environné par la cinématique de Rollo. Donc moi, je prends mes extraits là uniquement de la Grundzüge einer Theorie des Maschinenwesens. Alors, qu'est-ce que dit Rollo ? Ben là, je vous dis le rapport, par exemple, à la tradition de Monge. The real cause of the insufficiency of the French classification is not the classification itself. It must be looked for deeper. It lies, as I have already pointed out, in the circumstance that classification has been attempted without any real comprehension being obtained. In the old classification, a commencement was made very commonly with the changing of one rectilinear motion into another. Là, il est en train de travailler sur les systèmes de poulies. Donc, une poulie, c'est un changement d'un mouvement vertical vers un mouvement de différentes directions. But no one asked whence the first rectilinear motion came, why it existed, how it has been created, wie man sie erzeugte. Et c'est là toute l'intervention de Rollo. On va voir exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il veut dire que le focus sur la transmission des mouvements doit être remplacé par un focus sur la détermination des mouvements, plutôt sur le mode d'engendrement des mouvements ou sur la façon dont les mouvements sont guidés. Le guidage est important ici, hein, parce qu'encore une fois, la règle guide les applications. Donc, c'est-à-dire, ce que maintient Rollo, c'est que les mouvements machiniques ne sont pas engendrés, donc erzeugt, ou déterminés, bestimmt, comme dans la nature, comme dans une non-machine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous lirez ça, là, il distingue deux types, en fait, de systèmes, de modes de détermination de mouvement. C'est ça que ça veut dire, système. Un mode de détermination qu'il appelle cosmique, et qu'on appelle naturel, et un mode de détermination machinique. Alors, quelle est la différence ? Prenez un système où vous avez un corps qui fait une rotation autour d'un autre, dans la nature. On est dans un cadre newtonien, imaginez que ce soit le Soleil et la Terre. Imaginez que vous ayez une force externe qui s'applique au corps qui tourne autour du gros corps, dans un plan perpendiculaire à lui. D'accord ? Donc cette force va perturber l'équilibre du système. Ce que dit Reulos, c'est que pour éviter qu'il y ait une perturbation, il faut qu'une autre force externe compense la première force qui est appliquée sur le système. D'accord ? C'est le principe de l'action et de la réaction, la dynamique newtonienne, vraiment, un truc. Maintenant, transformez la chose. Imaginez qu'on ne soit plus dans la nature, mais qu'on soit dans une machine. Donc, vous avez un mouvement de rotation d'une roue autour d'un axe. Okay. Imaginons que une force externe s'applique, perturbatrice donc, s'applique à la petite boule sur l'image. Ce que dit Reulos, c'est que pour maintenir l'équilibre, il va falloir qu'une force, bien sûr, compense cette première force. Mais, à la différence du cas naturel, la force ici est latente. Ça, internal ou latent force, qui est due à la rigidité de la roue. D'accord ? Qui est guidée, d'une certaine façon, par la forme de contact entre l'axe et la roue. Alors, vous voyez, par exemple, ici, ça va être les éléments d'une machine. Pour l'alphabet d'une machine, pour Reulos, c'est justement ces formes très fondamentales où vous avez des contacts entre deux formes, deux corps, qui déterminent les mouvements de ces corps de façon complète et de façon absolument déterminée. Donc, l'idée, c'est que dans un système machine, les formes et l'arrangement des corps rigides déterminent leur mouvement possible à partir des forces latentes qu'ils contiennent. Les mouvements ne sont pas engendrés par des forces externes, où l'équilibre n'est pas maintenu par l'invocation de forces externes. Les mouvements ici sont engendrés par la disposition géométrique de corps super rigides. Donc, pour moi, l'intuition fondamentale de Reulos, elle est toute simple, c'est que dans une machine, mais très puissante à mon avis, les mouvements sont complètement déterminés par les formes géométriques et l'arrangement des composants machiniques complètement rigides. Et ça, pour lui, ça singularise l'essence des phénomènes machiniques par rapport aux phénomènes naturels. Et c'est quelque chose qui fonde l'autonomie de la cinématique par rapport à la mécanique. C'est-à-dire, s'il y a une science autonome de la cinématique, si on peut avoir une classification générale des machines, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, le mouvement n'est pas déterminé comme il l'est généralement dans la mécanique. Il est lié à d'autres modes de détermination qui sont des modes de détermination géométrique. Cette idée-là, elle peut vous paraître très simple, basique, etc., mais en fait, elle est vraiment fondamentale et fondamentale dans la théorie des mécanismes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous prenez un manuel, n'importe lequel, d'accord, sur les mécanismes, qu'est-ce qui vous dit, au début, là j'en ai pris un au hasard, et le mécanisme, the controlling factor that determines the relative motion allowed by a given joint, donc je dirais ce que c'est un joint, mais c'est une articulation élémentaire, is the shapes of the mating surfaces or elements. Each type of joint has its own characteristic shapes for the element, and each allows a given type of motion. Bla bla bla, bla bla bla. Okay. Donc, moi, ce qui me séduit beaucoup dans l'idée de Reulos, c'est l'idée que des formes géométriques sont intrinsèquement liées à des types de mouvements. Que si vous voyez des mouvements, vous pouvez essayer de remonter aux formes, et si vous avez les formes, vous avez les mouvements. C'est vraiment tout l'esprit de la cinématique de Reulos. C'est ça qui dit que les Français n'ont pas vu. C'est ce mode de détermination géométrique qui manque aux Français. Deux choses sur Reulos, rapidement, parce que je crois que je... Donc là, moi, je vous ai dit la base, l'idée de base de Reulos, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée de base, elle est au fondement d'une nouvelle classification des machines. Donc les éléments fondamentaux des machines sont les paires, en fait, de ce qu'il appelle links. Les links, c'est des corps rigides, d'accord ? Et donc, le mouvement d'un link, enfin, d'une. Enfin, le mouvement d'un élément relativement à un autre est complètement contrôlé par la forme de leur surface de contact. Et c'est sur ça qu'il base sa théorie générale. Donc là, vous voyez, une machine, en fait, l'élément de base d'une machine, c'est pas un link, mais c'est une articulation. D'accord, c'est ça l'idée. Une articulation entre deux links. Et donc, une fois qu'on a, donc il classifie les links qui sont élémentaires, donc il y a les joints rotatifs, enfin les joints rotatifs, les joints, ce qu'il appelle prismatiques, les vis, puis d'autres choses. Et à partir de là, il dit quand différents links sont connectés deux par deux par des joints, ils forment une kinématique kette, une chaîne kinématique. Une chaîne peut être ouverte ou close, ok. Et une chaîne close avec un des links qui est fixé à la Terre, c'est ce qu'il appelle le mécanisme. Et un mécanisme, enfin les machines sont des ensembles, des combinaisons très compliquées de mécanismes. D'accord. Donc ça, c'est une partie. En fait, tout son travail, c'est ça. Enfin, l'essentiel de son travail, c'est, je veux dire, c'est très concret, quoi. Il désosse les machines en un ensemble de mécanismes pour montrer que ça marche bien et que c'est aussi une technique d'invention de nouvelles machines. La deuxième chose que fait Rollo dans son livre, c'est qu'il invente une notation cinématique. Et le point qui est vraiment important pour comprendre pourquoi il faut inventer une notation cinématique, c'est que si vous regardez un petit peu des mécanismes, même assez simples, mais bon, par exemple des mécanismes spatiaux, il est extrêmement compliqué. Il y a une tâche cognitive qui est particulière, qui est de, à partir de la forme des articulations, d'essayer de comprendre comment les éléments vont mouvoir les uns par rapport aux autres. C'est pas du tout évident à faire. Nous, on a les vidéos sur YouTube, on a les tutoriels, on peut comprendre. Vous avez ce mécanisme, ça bouge comme ça, d'accord. Ah ouais, ok. Mais la tâche est pas du tout. La tâche cognitive est vraiment pas évidente. Et c'est pas évident de transmettre. Il y a un problème de transmission. C'est-à-dire, c'est pas évident de transmettre l'invention d'un nouveau mécanisme par des dessins. Les dessins suffisent pas, on comprend pas. Et donc, la notation est là pour essayer de montrer comment, à partir d'une forme, un mouvement peut naître. D'accord? C'est ça, l'idée de notation cinématique. Et donc, il y a tout un chapitre, ce chapitre pour Rollo, ça fait 70 pages, qui est consacré à comment on note les mouvements, comment on note aussi les joints, en fait. Alors, Wittgenstein et Rollo, je reviens là. Donc, j'avais dit qu'il y avait cinématique dans le texte de Wittgenstein, mais qu'en fait, il y avait plusieurs cinématiques à l'époque où il parle. Il y a quand même la tradition française, puis il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnées. Et donc, on pourrait se dire, oui, d'accord, mais pourquoi Rollo, finalement? Pourquoi Rollo? Après tout, il ne réfère jamais à Rollo, pourquoi parler de Rollo? Alors, regardez, on va reprendre le texte. La machine comme symbolisant son action, l'action de la machine. I might say at first seemed to be there in it from the start. Mais ça, c'est les forces latentes. Elles sont là, les mouvements sont là dans la machine. C'est ce que veut dire l'idée de force latente. What does that mean? If we know the machine, everything else, that is its movement, seems to be already completely determined. Okay? Et là, la complète détermination, c'est ce qu'on trouve chez Rollo. C'est précisément l'opposition qu'il a avec les French, la tradition française. Et c'est exactement le Herzog, okay, de Rollo. Ensuite, est-ce qu'on oublie la possibilité de leur breaking off, etc.? Mais oui, on oublie ça. Justement, ça fait partie du deal. Les systèmes machiniques sont hyper rigides. C'est constitutionnel. C'est définitionnel. D'accord? Donc c'est... Et alors, on pourrait dire... Je fais une sorte de listing des raisons pourquoi je pense que... Pour moi, Rollo constitue le background pour interpréter ce paragraphe. Donc il y a d'abord toute l'emphase sur les parties rigides qui détermine complètement. Et ça, on le trouve que chez Rollo, à ma connaissance, peut-être ailleurs, mais moi, j'ai trouvé que chez Rollo. La deuxième chose, c'est vraiment la terminologie. C'est la même. Bestimmt, Bewegung, Wirkungsweise, Ausschließung der Möglichkeit. Ausschließung der Möglichkeit, c'est vraiment très très beau. L'exclusion de certaines possibilités par des joints. D'accord. Starkörper, etc., etc. Et bien sûr, la notion de kinématique. La troisième chose, c'est qu'on pourrait dire, non mais, ok, mais on ne trouve pas chez Rollo die Maschine als Symbol. Ben ouais, mais il y a les notations cinématiques. D'accord ? C'est vraiment important, l'idée que seul un symbole peut représenter une partie d'une machine, parce que seul un symbole peut d'une certaine façon rendre compte de l'animation de cette partie dans le mécanisme. Et puis enfin, il y a l'idée générale, quoi. Il y a le quatrième point, c'est que si Kripke a raison, si Hacker et Becker ont raison, que vraiment le point philosophique fondamental, c'est une espèce de confusion entre le normatif et le causal. Mais précisément, c'est au cœur de Rollo. Ce que dit Rollo, c'est que la cinématique diffère de la mécanique précisément parce que les mouvements machiniques sont sujets à un différent type de loi que les mouvements naturels. C'est des mouvements qui sont produits géométriquement. Donc, voilà. Donc, ce qui est conçu comme une confusion est en fait central dans le projet de Rollo. Alors, ce que je ne dis pas qu'on trouve aucune référence. Donc mon point faible de tout ça, c'est beau, mais peut-être, mais c'est un château en l'air. Parce que le point faible, c'est qu'on trouve aucune référence. J'ai trouvé aucune référence de Wittgenstein à Rollo. Bon. Mais à mon avis, je maintiens quand même le truc, parce que dans l'histoire que je raconte, Rollo n'apparaît pas comme un auteur original. Pour moi, c'est plutôt un professeur. Ou peut-être même pas ça, juste une source permettant de redécouvrir le contexte scientifique dans lequel Wittgenstein évoluait. Je pense qu'en fait, à la limite, on pourrait comprendre que Wittgenstein, même, enfin pour lui, ça faisait partie de quelque chose qui était évident, qui était partagé par tout le monde, cette notion de machine. Il a pas compris qu'il évoluait dans un contexte qui était particulier et qui nous est aujourd'hui un peu occulté par la référence à l'ordinateur et par la référence aux machines. Donc voilà, on avait la première analogie, moi je la compléterais, si vous me suivez, je la compléterais bien comme ça, je la préciserais bien comme ça. C'est-à-dire que l'analogie entre machine et mouvement, en fait c'est l'analogie entre pair type, une kinematical chain, and movement of the link in the chain, comme Rollo l'a dit. Alors, si vous me suivez là-dessus, bah, vous pouvez peut-être me suivre sur une seconde analogie. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a des règles et des applications à la règle, que l'application à la règle est interne à la règle, c'est une certaine conception de la nécessité. Et qui est opposée chez Wittgenstein à la contingence. Donc vous avez les règles qui sont nécessaires, hein, qui contiennent en elles leur application, puis vous avez les faits contingents, comme vous avez chez Wittgenstein ce qu'il appelle les relations internes qui s'opposent aux relations externes. Bah, si vous me suivez alors là, ce qu'on peut faire, on peut préciser les choses. D'une certaine façon, les règles nécessaires, les règles nécessaires sont aux faits contingents, un petit peu comme la cinématique est à la mécanique classique. C'est-à-dire que pour maintenir un équilibre, on est obligé d'en appeler à une force qui intervient. Okay ? Et les règles nécessaires sont comme les machine systems qui s'opposent au cosmical system. Alors, j'en viens à ma conclusion. Bon, j'ai dit que je ne voulais pas je voulais pas interpréter pays 193, je voulais juste identifier de quoi il parlait quand il parlait de machine. Et on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est possiblement intéressant historiquement, mais c'est un peu anecdotique. Quel est le gain philosophique d'une telle investigation historique? Et moi, en fait, je suis très sensible, en fait, je pense que j'ai toujours aimé Wittgenstein parce que j'étais très sensible à cette sorte de lien qu'il faisait justement entre mouvement et forme, entre usage et forme, surtout au premier Wittgenstein, c'est-à-dire ce qui est dénoncé par le second Wittgenstein. J'adore ça, je trouve que c'est très beau, que oui, c'est très bien d'essayer de, quand on a un usage, d'essayer d'identifier la règle qui les gouverne. quand on a des mouvements, d'essayer la forme, d'identifier la forme qui la produit. Et si vous voulez, je trouve que ce qui est complètement absent dans la lecture que fait Kripke, et dans la lecture fonctionnaliste en général de la machine comme distincte entre programme abstrait et implémentation réelle, c'est l'importance et la force de la connexion faite par Wittgenstein dans le Tractatus et dans ses premiers écrits entre la forme et le mouvement. C'est vraiment un penseur, je trouve, Wittgenstein, de la forme et de la forme visuelle presque, mais aussi du mouvement, c'est-à-dire comment le mouvement est engendré par une forme. Et ça, je pense que c'est vraiment une pensée d'ingénieur à l'époque, de l'époque. C'est vraiment une pensée qui, pour moi, est complètement façonnée par Kripke. Alors, pour vous donner juste un exemple de l'usage possible de tout ça, bah regardez le début de Wittgenstein. « In a state of affairs, objects fit into one another like the links, glider of a chain, kettle. » Glider, c'est le terme de relot pour link. Et kettle, c'est la chaîne. D'accord ? Donc, c'est les mêmes termes. Et, bon, on s'en fiche à la limite, mais c'est aussi la même idée, fondamentalement. La même idée, c'est que ce qui est fondamental dans le state of affairs, c'est l'articulation entre les objets. D'accord ? Et que, d'une certaine façon, the relation that objects have with the state of affairs in which they occur is the same as the relation that the link taken with their contact surface have with the kinematic chain in which they are contained. Et on peut même trouver dans Wittgenstein un équivalent des développements de relot sur la rigidité des composants de la chaîne. Un objet, c'est ce qui est feste, c'est ce qui est non altérable. Tandis que l'état de choses, c'est ce qui est altérable. C'est ce qui a du mouvement. D'accord ? Donc, bon, voilà, ça peut... Bon, si vous voulez, si vous me suivez là-dessus, ce qui est beaucoup plus tiré par les cheveux, eh bien, on pourrait faire une troisième analogie, c'est-à-dire les objets sont aux états de choses, comme les links sont à la chaîne kinématique chez Wittgenstein. Et je veux dire, bon, cette troisième analogie, je sais bien qu'elle est faible en un sens. On peut trouver plein d'analogies, l'analogie chimique avec les valences, etc. Mais il y a beaucoup de choses dans le Tractatus et dans les premiers textes de Wittgenstein qui vont dans ce sens. Pensez à l'usage du degree of freedom, d'accord, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas lié à relot, mais qui est très important dans la tradition de relot, c'est les degrees of freedom d'un joint. Vous avez toute sa réflexion autour de meaning bodies. Vous avez toutes ces réflexions autour de logic take care of itself. Et chez relot, alors vous allez me dire, quel est le lien ? Bah chez relot, il y a tout un passage où il dit, en fait, dans le progrès des machines, au départ, si vous voulez, il faut un opérateur pour take care of the machine. Parce qu'il faut compenser les mouvements des machines imparfaites. Mais une fois que les machines sont parfaites, il n'y a plus besoin d'opérateur. Ça, c'est tout seul. Les machines se compensent elles-mêmes. D'accord ? Donc, il y a ça. Puis enfin, il y a une lettre à Engelmann en 1916 où Wittgenstein parle du TLP, du Tractatus, c'est très énigmatique, mais comme une machine pour devenir un homme décent. Et donc, voilà, c'est tout.
So, this is just a question of curiosity, but you surely know it. So another person who Wittgenstein, I think, like Susan Starrett has emphasized, that Wittgenstein was influenced by is Otto Lilienthal, who was like an aviator and someone who was flying. He was kind of a crazy person, right? I mean, in a good way.
Who is he? Sorry,
Otto Lilienthal.
Otto Lilienthal, okay.
Yeah,
okay.
And I think, was he also at the same
school? I don't think so.
School? That's because I'm wondering, because there is a kind of, you know, Wittgenstein has also his own career in engineering.
After the Technische Hochschule, yeah.
Yeah, but I guess in a sense, like what's interesting about one of the many interesting things about what you've just presented is that there's a kind of as you say, this is the context of development of Wittgenstein as a scholar, but also in terms of how he thinks about these fundamental relationships between form and movement. And so then it seems as if like some of you mentioned Kripke and Hacker, but there's also other people who are trying to compare Wittgenstein to, I think, people who on your reading would be more, it wouldn't be so much that those people influenced Wittgenstein as it would be that they came from the same
background.
And they so Hulot would then be sort of the more fundamental source, you know, rather than saying that one.
Of course, you're right. But I don't want to say that he influenced him, but what I could say that you have a practice, the kinematic practice, where you analyze machine in element. And we know that from biographic thing that Wittgenstein loved to do that, that he was good at that, that he did that all his life. And this, what I like in Rollo is that he is a kind of guy who explained to us the, not only the basic of the practice, but he explains the basic of the of this practice in a kind of philosophical way, okay? Mm-hmm. Because all the beginning of the kinematic is quite philosophical, with a distinction between cosmic and he tries to locate because basically he wanted to try to distinguish kinematics, his kinematics, to general mechanics. So he had to locate where the kinematic practice distinguish itself from the more usual mechanic practice or geometrical practice. And that's why it is interesting. But you're right. I should maybe abandon the idea of influence, just the idea of background, background.
So there's a way of talking about this where you talk about like what Kuhn called the context of pedagogy, where somebody learns how to think in a certain way or learns how to articulate certain problems. Mm. And I think that might be closer to, it's not exactly an influence, but it's you learn how to approach a broad set of questions by becoming educated in a tradition. And it seems like that can really be illuminating even more than in a case of influence, because it's almost, it's this very deep.
Thank you for the suggestion. I will come back to you about the reference to Kuhn exactly, because I need it, I think. Thank you.
Yes, I'm completely convinced of your links between Wittgenstein and Rollo, and I think this is a much more illuminating context than what either Kripke or Baker and Hacker have offered us. But I have questions about the positive payoff for this section in the context of the overall discussion, which of course is not your focus. But one idea I had is, as you were speaking, is that just like in other places in the investigations, Wittgenstein is introducing a language game, which is perfectly fine for its purposes, but is liable to suggest incorrect general picture, say, of how language works. And so we have to bring in other language games. I wonder if we could think of, especially Rollo's development of a linguistic notation for his machines, as being another language game of a sort that is perfectly fine as it stands, but is liable to suggest a misleading analogy to especially this stronger form of necessity that then we get puzzled about. So I think that's consistent with what you were saying, but it's a, I don't know, it's a more, it would, then what he's doing in this section would be similar to what he's done in other sections, that is drawing attention to something that is perfectly fine in itself, but but liable to mislead us.
Okay. Because I completely agree with what you say. In fact, I have another conclusion that goes in that direction, especially if you look at... if you look at the extract 1, at the end of the extract 1, I put two slash, okay? And I say, because I just jump from one passage to another, and Wittgenstein say, we might say that a machine, or the picture of it, is the first of a series of pictures which we have learned to derive from this one. So here, my interpretation of this sentence, which is not very obvious, but my interpretation is that the picture here is not the drawing of a machine. It's a misleading picture that make you that lead you to false analogies and to generalizations. So what I think Wittgenstein is saying here is that here you have a language game, as you say, which is perfectly fine in itself, but that leads, that is very, very dangerous, but because it leads is a first of a series of misleading analogies. That's how I read that. And I think he speaks to his former self here. That is, it's kind of psychoanalysis of the former Wittgenstein. He said, you have been too much, okay, maybe I'm exaggerating, but you have been too much impacted by, not by Rouleau, but by your training in general, by the beauty of this kind of game that interchange a form and a network of movements, okay? And you like it that too much, and you made too much of that. So I think that not only, I completely agree with that, so I don't see that it's incompatible with what I said in the conclusion. I'm okay with that. But I think that Wittgenstein himself, in fact, here, is speaking of his training as an engineer, and as he says that has had bad effect on me. The practice is okay, but the generalization that I did in the Tractatus and in the early 30s was a mistake.
I think we agree, and just developing some of the points you were making, it seems to me that the relevant aspect of the Tractatus that is under attack here would be the conception of logical inference or logical necessity.
Of course, yeah.
And
but not only the presentation as well, the diagrammatic presentation of logical inference. That is, for example, what I like in the truth table notation is that you can have a method of visualization of the inference, and you know, it's as if you can deduce from the fixed diagram something that is a kind of movement. So it's not only a theoretical idea, it's as well something that I go maybe too far in this direction, but you know, all the diagrammatic aspect and the obsession of Wittgenstein for what is called synoptic view, is a kind of, you have to recollect the various movements because you will be lost if you don't do that. Why? I think that the origin, one of the sources of this idea could be the idea that in a machine, any movement can be analyzed in a combination of form. But maybe not.
Yes, no, I agree that the attempt to make sense of logical inference in terms of logical syntax,
okay.
There will be a process, sort of flowing out of the propositional sign that will terminate in its a tautology or its non tautology. I think that is also very suggestive comparison. Yes, I hope we can talk more about it.
J'ai juste une contre-remarque. bon, moi je suis tout à fait convaincu, mais mon avis ne compte pas beaucoup parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Wittgenstein. Mais par contre, j'ai cru comprendre que l'explication alternative était une référence aux machines de Turing. Et alors, ça m'a frappé. Peut-être que c'est une confusion possible, déjà tout à fait étudiée, etc., par les gens qui défendent cette idée-là. Mais si Wittgenstein fait référence à des machines concrètes, ça me semble surprenant de faire un parallèle avec les machines de Turing, parce qu'il faut faire attention à une confusion qui est souvent faite dans l'histoire des ordinateurs. Quand on dit que Turing est l'inventeur des ordinateurs, c'est très, très incorrect d'un point de vue historique, et Turing n'a jamais pensé à des machines réelles. Et d'ailleurs, dans son article de 1936, il n'emploie pas le mot « machine ». C'est un an plus tard, Alonzo Church, qui lui emploie métaphoriquement l'expression machine, alors que Turing pensait à un être conscient, pensant qu'il fait des calculs sur une feuille de papier.
Voilà. Non, mais oui. Mais l'interprétation, par exemple, de Juliet Freud, l'engagement avec Turing, c'est parce que, et la raison en un sens, c'est parce que je crois que dans le texte, dans le texte de Turing, il y a quand même vraiment un rapport à la règle,
oui,
évidemment.
À la règle, oui, c'est sûr.
Et à l'encodage vraiment des procès. Donc, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui applique les règles. Donc, l'analogie est aussi, enfin, pourrait très bien me rétorquer, mais c'est. Non, c'est. Et puis, il y a aussi la référence, alors, c'est ce que dit Juliet Freud, c'est qu'il y a, en fait, c'est la machine comme symbolisant ses propres actions. Donc, elle pense que dans cette autoréférence de la machine, il y a quelque chose qui va dans le sens de Turing. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas Turing. C'est que il y a différentes couches, tu vois. Enfin, pour moi, vraiment, Turing est très important à ce moment-là pour Wittgenstein. C'est vrai, ce que dit les commentateurs, ce que dit Juliette est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ça éclipse l'ensemble de des discours sur les machines, parce que là, ça ne va pas. Donc, je pense qu'en fait, peut-être que Wittgenstein réactive, en fait, poussé par Turing, de vieilles obsessions, qu'il les comprend comme des obsessions, au moment où il est en confrontation avec Turing. Donc, peut-être qu'en fait, on a tout à fait raison d'insister sur Turing. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit mal. D'ailleurs, Kripke le dit aussi, hein, lui-même, il dit qu'il ne faut pas plaquer le fonctionnalisme sur Wittgenstein. Enfin, en fait, je ne fais que ça, moi. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le discours sur les machines ne doit pas être parasité par les années 70 ou 60-70. En plus, je pense que la distinction, enfin, ça, je ne connais pas bien, mais je pense que la distinction entre programme et implémentation, elle nous paraît évidente à nous, mais on est très tôt en 38. C'est pas du tout dit que ça soit les problèmes des gens en 38-40. C'est plutôt plus vieux, ça. Donc je pense qu'au niveau même de la plausibilité historique, c'est très étrange.
Il me semble qu'en histoire de l'informatique, la distinction software-hardware, elle vient dans les années 70-80.
Oui, elle est popularisée. Ouais.
S'il n'y a pas d'autres...
Une question qui ne concerne pas les années 70-80, mais un peu avant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tout ce travail que tu as fait sur Rollo, que je ne connais pas du tout, sur la cinématique dans la deuxième partie. Mais j'étais un peu étonné parce que, en gros, là, moi, l'idée que j'en avais dans le développement de la physique, en gros, dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand on voit apparaître le terme de cinématique, en fait, ça reprend un vieux terme qui est ça remplace le mot de forme.
Oui,
par exemple, au sens de Kant, et ce que tu dis. dit par exemple sur la cinématique en tant que c'est pas de la mécanique, mais c'est une théorie des corps inertes et sans tenir compte des forces. Donc, il y a pas, classiquement, c'est ce qu'on appelle la fourmonie et qui s'oppose effectivement au corps en mouvement, mais au corps matériel en mouvement ou au repos avec une statique. Et donc, dans ce point de vue, ça se distingue de la cinétique. Cinématique. Mais est-ce que, alors du coup, ma question, c'est comment est-ce que c'est singulier à Releau, cet usage du concept de cinématique pour l'appliquer. Mais du coup, tu vois, la cinématique, pour je crois, même chez Ampère et chez chez les auteurs comme Wilhelm Ostwald à la fin du 19e siècle, ça désigne une théorie pure du mouvement, mais pas du tout, mais qui est purement géométrique, mais qui n'est pas du tout censé expliquer des mouvements machiniques.
Ouais.
Tu vois. Et alors, c'est purement géométrique, mais purement géométrique, ça veut dire que c'est la même façon que la géométrie parle de l'espace pur, la cinématique parle du mouvement, du concept pur du mouvement. Et est-ce que c'est singulier à Releau et du coup
non, alors je pense que dans le texte que j'ai fait d'Ampère, et c'est le contexte dans lequel il parle, je crois, c'est cinématique veut dire deux choses, parce qu'Ampère est le descendant de la tradition de Monge, donc on a des classifications en fait, de dispositifs, les poulies, des trucs comme ça, c'est-à-dire des alphabets, on décompose les machines transmetteurs de mouvement, en fait. Et je pense que, moi, l'idée que j'ai avec Ampère, je crois que c'est clair dans le texte d'Ampère, j'entends ce que tu dis tout à fait, c'est que, à mon avis, l'hypothèse que je ferais, c'est qu'avec Ampère, il y a justement il n'emploie pas foronomique, peut-être parce que c'est un mot allemand, peut-être que je ne sais pas, mais il veut lier les sciences du mouvement à classification des machines. C'est vraiment un projet de la théorie, de la tradition française, d'après ce que j'ai compris. Et d'après les préfaces que j'ai lues, ça revient tout le temps. Parce que les machines, l'élément central des machines, c'est la transformation du mouvement. Il y a toujours le même exemple avec les joints de watts qui transforment les trucs en les rotations. Donc, pour eux, ils disent, voilà, on a trouvé. C'est des classificateurs, Ampère, ils classifient les sciences. Il dit, en fait, la foronomie, c'est possible de l'appliquer directement à la classification des machines. Et ces deux choses, je les appelle, d'une certaine façon, je la baptise cinématique. Donc, si tu veux, pour moi, la notion de cinématique dans la tradition française, c'est à la fois la tradition de mécanique géométrique, purement géométrique, avec le mouvement, mais en même temps, l'idée, c'est que ce n'est pas du tout incompatible. Ça va très bien avec la machine, parce que la machine, c'est quoi ? Une machine, c'est juste des modifications de mouvement. Et c'est simplement, si tu veux, je pense, Releau, qui dit, non, il y a des causes à ces mouvements, il y a une détermination, simplement, ces causes sont latentes. Et ces causes latentes, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas savoir. Bien sûr, il doit y avoir des forces au niveau micro, etc., mais je m'en fiche, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est simplement... Donc, lui, il réhabilite les causes, mais donc, ce n'est pas de la cinématique au sens foronomique, d'accord, puisqu'il y a des causes du mouvement, il y a des forces, mais c'est complètement lié à la machine. C'est-à-dire que dans les deux sens, sens 1 et sens 2, si tu veux, dans la tradition française, finalement, c'est que le sens 1 géométrique qui va prévaloir. Et ce que veut faire Releau, c'est dire non, le sens important, c'est le sens 2. Mais il faut abandonner le sens 1. Là où il y a un corps, c'est que de toute façon, on ne peut pas faire... Tu vois, c'est comme ça que je vois le truc. Mais après, je n'ai pas fait le travail sur comment... ce qu'il y a avant Ampère, en fait. Tu vois, je suis resté plutôt à la fin 19e, où là, c'est très clair, on a en Angleterre, on a cinématique, cinétique, dynamique, dans les textes de physique. Ça, je l'ai. Mais avant, je ne sais pas exactement comment ça s'est mené.